Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
France Inter.
Club.
Go.
Bonsoir à toutes et à tous. Entrée libre au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques, c'est Côté Club, votre dose de musique quotidienne 100% scène française. Cocorico, Marion Guilbeault.
Cocorico, Laurent Goumard, cocorico tout le monde.
Une scène française qui regarde de l'autre côté de la Manche et reprend 13 classiques de la pop anglaise, version jazz. C'est votre programme Brexit Music. Baptiste Trottignon, bonsoir.
Bonsoir.
The Beatles, Radiohead, en passant par Bowie, Queen et j'en passe. Vous jazzifiez en trio, le piano c'est vous, contrebasse et batterie. Un répertoire dominé par les années 70 qui vous ont vu naître. Que faut-il en penser ? À vos côtés, un maître de l'harmonica, un activiste, homme de radio pour une défense et illustration du blues avec Bon Temps Roulé sur TSF, Jean-Jacques Milteau, bonsoir.
Bonsoir.
On est à la veille de votre concert d'ouverture au Blues Roots Festival à Méreuil, un concert articulé autour d'eux de vos albums, Soul Conversation 2008, Consideration 2011. Mais quelle est leur histoire dans votre répertoire ? La réponse dans quelques instants. Marion ?
Zoom sur les premières chansons de Bachung, bien avant Gabi et Joséphine, quand le jeune Alain portait des cols roulés, du velours côtelé et chantait comme un ténor égaré dans la pop.
Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter.
Et on ouvre avec Jeanne Adède, que vous connaissez bien, Baptiste Trottignon. Vous l'aviez invité sur quelques titres dans l'album Song, Song, Song. Jeanne Adède, est-ce que vous suivez toujours son parcours ?
Ouais, c'est formidable comment elle a évolué. C'est marrant. Alors, on s'est un peu perdu de vue, mais bon, de temps en temps, on se croise peut-être. Mais c'était marrant parce que je me souviens que pendant Song, 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 elle était à fond, en mode hyper anxiogène. Mais je dis ça de façon affective, hein, sur la préparation de son premier album qui l'a fait exploser, on va dire, pour le public, etc. Et c'était vraiment de la musique qu'elle voulait faire, quoi. Et je me souviens qu'elle était très torturée parce que c'était la période de transition. Elle voulait plus faire de jazz. Elle voulait vraiment faire son truc qui était différent. Et donc pendant les concerts, des fois, elle était là. Ah, c'est compliqué. Je fais d'avoir les deux cette dichotomie dans la tête. C'était une période où c'était compliqué pour elle, mais toujours beaucoup d'admiration pour elle, bien sûr.
Aujourd'hui, elle est Ready Baby sur France Inter.
You are ready. You are ready. You are ready.
Jean-Jacques Milteau et Baptiste Trottignon sont nos invités côté club ce soir. Deux figures de la scène blues, jazz et beaucoup plus. Deux parcours exemplaires, on va y revenir avec chacun son instrument. Harmonica pour Jean-Jacques Milteau, le piano pour Baptiste Trottignon. Deux musiciens, compositeurs, chacun bardé de prix des Victoires de la musique et du jazz entre autres. J'imagine que vous vous connaissez l'un l'autre.
Absolument, je connais déjà sa réputation.
Ouais, Jean-Jacques Milteau.
Oui, non, bah, on se connaît, Trottignon, se connaît pas très bien, mais on s'est croisés un certain nombre de fois, et puis on, voilà.
On va revenir sur vos parcours et sur vos répertoires respectifs, mais avant cela, je vous propose d'écouter les titres déclencheurs. Chacun va reconnaître le sien. Le premier. Like a Rolling Stone. Bon, c'est pour vous, Jean-Jacques Milteau.
C'est gentil, j'apprécie.
Je peux imaginer. En quoi ce titre a été un déclencheur pour vous, Bob Dylan, Like a Rolling Stone?
Bah, c'est une date, j'avais 15 ans, c'est 65, je crois. Et c'est une. Bob Dylan lui-même était un phénomène parce qu'on sortait du rock, d'Elvis, puis des Beatles, des Rolling Stones, et Dylan s'est positionné politiquement. Et ça, c'était quelque chose d'assez nouveau quand même à l'époque pour des jeunes gens, pré-adolescents, je dirais. Et c'est ce qui a attiré mon oreille d'abord. Il y a une conscience politique et ça, c'était important.
Vous aviez une conscience politique
non,
déjà
pas
à 15
moi,
ans?
Pas moi, mais justement, ça m'a laissé penser qu'il y avait, quelque chose d'autre que la musique. Que la musique servait des dessins qui n'étaient pas uniquement artistiques.
Et la deuxième chose, j'imagine, c'est l'harmonica que l'on entend derrière?
Oui, un petit peu, oui.
Un petit peu, pas plus que ça.
Si, mais je dirais que c'est un tout. C'était extrêmement original quand même à l'époque. La voix qu'il avait, l'orchestration qui était à la fois presque soul, mais jouée sur un tempo rock, folk rock. C'était très, très nouveau.
Quand on dit élément déclencheur, titre déclencheur, qu'est-ce que ça a déclenché chez vous?
Bah, c'est le moment où j'ai acheté mon premier harmonica, en fait, effectivement.
Mais c'était pas une guitare, c'était un harmonica.
Oui, c'était un harmonica. La guitare, j'en avais acheté une, mais en fait, j'ai dormi dehors avec en allant en Angleterre et je ne l'ai pas retrouvée en bréviaire.
Le deuxième titre, ce sera celui de Baptiste Trottignon. Jean-Jacques Milteau, est-ce que vous identifiez ce son?
Oui, c'est du piano.
Je vous remercie.
J'ai bon.
C'est parfait. Pour l'instant, c'est un sans faute.
C'est une réponse que j'ai.
Plus que ça.
Vous avez d'autres questions?
Vous l'aidez, Baptiste Trottignon, qu'est-ce qu'on en écoute?
Oui, bah, c'est un élément parmi d'autres qui a été déclencheur. C'était difficile d'en choisir un, évidemment. Mais c'est un extrait, c'est le petit morceau de rappel à la fin du fameux Cologne Concert, concert à Cologne de Keith Jarrett. Et c'est marrant parce que Jean-Jacques, tu disais quand j'avais 15 ans, etc., Bob Dylan, et je devais avoir à peu près 14-15 ans quand par hasard, je me souviens que ma mère m'avait emmené faire plusieurs séances d'acupuncture et le gars pendant la séance, le chinois en question, il mettait cette musique-là en musique de fond, il mettait le concert à Cologne pendant, vous savez, les 45 minutes où on est allongé, etc.
Ouais, bien sûr,
donc
ouais.
J'étais ado, j'avais quoi, 14 ans, un truc comme ça. Et moi, je faisais déjà du piano classique, tout ça, etc., conservatoire, compagnie. Et je me suis dit, oh, on peut faire tout ça avec un piano. Donc voilà, c'est après, j'ai découvert plein d'autres choses chez Jarrett qui sont peut-être un peu plus sophistiquées, un peu plus avancées que le concert à Cologne. Mais c'est une porte d'entrée, effectivement, qui a été, pour tous les gens de ma génération, les pianistes de jazz de ma génération, c'est une porte d'entrée qui est assez récurrente pour les musiciens, effectivement, cet univers d'improvisation. Chez Jarrett, qui m'a ouvert d'autres portes après, bien sûr. C'était juste une porte d'entrée. Là, le morceau qu'on entend, c'est quand même une composition, mais de façon générale, c'est un très grand improvisateur du XXe siècle. Quoi. Et d'ailleurs, c'est l'anecdote qui est rigolote quand j'y repense, parce que le morceau qu'on entend, c'est effectivement le petit morceau de rappel à la fin. Et je me souviens que j'avais demandé à l'acupuncteur en question une copie cassette. Vous savez, les cassettes,
mais oui, où
le face fait 45 minutes. Je fais toute ma culture musicale avec les copies cassettes. Et ça faisait 45 minutes. Et donc, ça s'arrêtait. Le disque doit faire 57 minutes ou un truc comme ça. Et donc, j'avais jamais eu ce morceau-là. Je l'ai eu quelques années plus tard, en fait, à 17 ans, quand j'ai eu le CD. Mais pendant 2-3 ans, entre 14 et 16 ans, j'ai écouté en boucle cette face A de cassette qui s'arrêtait en plein milieu du morceau, etc. Donc voilà, c'était un univers de liberté qui m'a beaucoup attiré et après ça donnait d'autres choses.
Et pas que ça, parce que si je vous entends, la musique aussi est liée donc aux soins. Est-ce que la musique a pu soigner
quelque chose ? La musique, je pense qu'elle fait du bien, oui. Enfin, moi, elle me fait beaucoup de bien, je pourrais pas m'en passer, oui, je pense, oui. Pour le coup, ce qui est chouette, c'est que c'est quand même le cas de plein de musiques vraiment différentes. La vibration quand on écoute, moi j'adore le blues rural, hein, le vieux truc, j'en ai moins bien que toi, mais je veux dire, bon, j'écoutais un petit peu aussi quand même, évidemment.
Vous écoutez du blues rural ?
Oui, enfin, c'est parce que j'écoute le plus, mais
c'est
ouais,
quoi du blues rural, Jean-Jacques Milteau?
Ça parlera mieux que moi, mais...
Ça vient de la campagne.
Bah oui, ça, j'ai bien compris. Si toutes les réponses sont de cet ordre, ça va être difficile.
Non, je vais m'appliquer.
Mais en fait,
les gens qui critiquaient le blues étaient souvent issus du jazz, hein. Je parle des journalistes. Et pour eux, il y avait le blues urbain et le blues rural. Le blues urbain, c'était un peu l'enfer, parce que c'était joué avec des guitares électriques. Et à l'époque, c'était pas très bien vu. Les premières tournées de Muddy Waters, par exemple, hein, il est venu avec des guitares électriques, il s'est fait jeter, il est revenu avec une guitare acoustique, mais les gens avaient changé d'avis, donc il s'est fait jeter aussi. Le blues rural, c'était le blues sans électricité. J'ai joué avec un bluesman qui s'appelle R.L. Burnside,
ouais.
Et l'argent de sa tournée en Europe lui a servi à installer l'électricité dans sa maison, dans le delta du Mississippi.
Génial. Oui, belle anecdote. On part en live avec vous, Baptiste Trottignon. Direction le piano du studio 621 pour un live. C'est un extrait de l'album Brexit Music et vous avez choisi le titre Life on Mars. David Bowie sur France Inter. Merci Baptiste Trottignon en live au piano pour Côté Club avec Life on Mars, extrait de ce nouvel album Brexit Music. Prise de son Alexandre Chenet, Alix Barrois. Un commentaire peut-être Jean-Jacques Milteau.
À froid c'est bien.
Ouais. Eh oui, c'est ça. Eh ouais, ouais. Ça
c'est
vous connaissez.
C'est pas évident.
Eh ouais. Un seul morceau à froid, il faut être bon tout de suite.
C'est un exercice, Jean-Jacques le connaît aussi. Ouais.
Brexit Music, alors on ne va pas s'exciter sur le titre, je sais que ça n'a rien de politique, que c'est une sorte de blague, j'ai bien lu la documentation.
C'est ce que je vois, bah voilà.
Est-ce que vous pensez quand même que le marché anglais va comprendre ?
On verra. Je ne sais pas, le disque
c'est
est sorti il y a...
qui tout double. Hein.
Le disque est sorti il y a quelques jours, c'était un petit peu tôt, je crois quand même ils en ont un peu marre de ce truc-là quand même.
On ne sait jamais. Brexit Music, 13 titres de pop anglaise que vous retravaillez, c'est courant dans le jazz, hein, en trio avec vos complices, Matt Mendman à la contrebasse, Greg Hutchinson à la batterie. Être seul au piano, est-ce que vous y aviez quand même pensé ? Je vous pose ça parce que vous aviez fait une reprise dans un album précédent, Seul au piano, de la Javanaise de Gainsbourg, sur l'album d'ailleurs Song Song Song. Mm-hmm. Donc c'était possible aussi, comme on vient de l'entendre. Ou est-ce
oui,
que
bien sûr.
Pour
non,
cet mais exercice, c'est que le trio.
Des albums solo, j'en ai déjà fait 3-4, ouais. Et là, j'ai pas envie de revenir au trio. Non, non, tout est possible, bien sûr, oui, oui. Mais dès mes premiers albums, j'avais fait une reprise de Julia, la chanson de Lennon, sur un album solo. Là, sur Brexit Music, il y a le dernier titre qui est en solo, un titre de Radiohead, Fake Plastic Trees. Donc oui, bien sûr, tout est possible. Après, il y a des titres qui s'y prêtent plus ou moins sur l'album. Il y a des trucs de Led Zepp. Qui dépote un peu, on va dire, quoi, où la présence de Matt et Greg, donc contrebasse et batterie, apporte beaucoup au groove, etc. Et que, voilà.
Un album construit de cette façon, ouverture avec Drive My Car, le titre ouvrait déjà l'album Rubber Soul des Beatles en 65. Au milieu, exactement, on trouve Almost Blue, un extrait du sixième album studio d'Elvis Costello and the Attraction, Imperial Bedroom. On est en 82. Avec Fake Plastic Trees, issu du deuxième album The Bends de Radiohead, sorti en 1995. Voilà pour la dramaturgie de l'album. Comment vous l'avez conçu, en fait, Baptiste Trottignon ? Que raconte cette construction de l'album ?
De façon très empirique, hein, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses dans ces musiques-là que j'ai écoutées, beaucoup, ado. J'étais super... Le premier disque que j'ai acheté avec mon argent de poche, le premier 33 tours, c'était Abbey Road, j'avais 6-7 ans. Donc j'ai écouté beaucoup les Beatles, Pink Floyd, j'étais super fan, Led Zepp, etc. Et c'est vrai que les années 70, vous en parlez au début, c'est un vivier pas possible, quoi. C'est-à-dire que c'est une époque, j'aurais adoré vivre dans les années 70, alors 20 ans dans les années 70, il y avait une espèce de foi en l'avenir, un espoir, etc. C'est plus vraiment le cas maintenant. Mais, et puis une période de créativité musicale, la musique était the cool thing. C'était vraiment le truc le plus hip possible, quoi, l'époque de Woodstock, etc. Et donc il y avait beaucoup de choses que je connais un petit peu, on va dire, dans les 70s, mais effectivement, après, dans les 80s, bon, il y a Police encore, etc., mais ça se casse un peu la gueule, stylistiquement, d'un point de vue de la qualité de la musique, quoi. Et puis, quand même, j'ai réalisé que Radiohead a remis un sérieux coup de frais, quoi. Effectivement, c'est incroyable, la créativité de Thom Yorke, enfin, de Radiohead, la qualité de la musique, des arrangements, des idées, enfin, bref, etc., etc. Donc, après, ça a été assez empirique, c'est-à-dire, c'est aussi de trouver les morceaux qui peuvent marcher en trio, tout simplement. Parce qu'on n'a pas le texte, on n'a pas l'argument du texte, on n'a que la mélodie.
il y a des super chansons, des fois, où la mélodie, il se passe rien, quoi. Si au piano, je fais, pour reprendre, c'est une super chanson, là, que Rolling Stone de Bob Dylan, mais si je fais like a Rolling Stone, na-na-na-na-na-na-na-na-na, je répète la note au piano, on va s'emmerder un petit peu, quoi.
Comment vous comprenez cela? Comment vous écoutez cela, Jean-Jacques Milteau? Si vous me dites avec les oreilles, ça va être difficile.
Vous sortez.
Vous sortez.
Non, j'écoute avec beaucoup de plaisir, parce qu'en fait, j'aime bien retrouver, effectivement, dans des arrangements différents, dans des interprétations différentes des morceaux originaux. Enfin, originaux, je veux dire, les morceaux que j'ai entendus, les origines, parce que quand Baptiste parle des années 70, c'est effectivement mes 20 ans, moi.
Oh, je suis jaloux.
Conservatoire de Nantes, vous allez remporter les prix de piano, d'harmonie. Dans quel répertoire vous étiez le plus heureux, avant le jazz?
Ah, en classique?
Ouais.
Bah, en fait, à partir du moment où on joue une musique qu'on aime, on est heureux, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que j'ai, dans ces années-là, Schubert beaucoup. Et mon petit chéri, c'était Prokofiev quand même. Que je jouais peut-être pas beaucoup parce que c'était difficile pour mes petits doigts à l'époque, mais j'avais travaillé la 7e sonate notamment. Et ça, c'était très excitant parce que c'était complètement déraisonnable comme musique, comme le sont souvent les Russes. Et donc, quand on a 15 ans, on a envie d'être déraisonnable.
Baptiste Trottignon, est-ce que vous avez écouté le dernier album de Miossec?
Simplifié. Je l'ai pas en mémoire, hein, je pourrais pas vous en parler, mais j'avais appelé Christophe, effectivement, on se connaît, vous savez.
Bah oui, je sais, puisque vous avez co-signé quelques chansons, quelques titres avec lui.
Je vois pas souvent, mais de temps en temps, on se donne quelques news, quoi. Et je te dis, il est génial ton titre simplifié, parce que la vie est devenue beaucoup trop compliquée, sous plein d'aspects. Et donc, Christophe, je sais plus ce qu'il m'a répondu, mais oulala, oui.
Ça, c'est bien lui. Tout est bleu sur France Inter.
Jamais nous, on vient de mourir là ce soir sur le coup. Nous ne serons plus jamais là pour personne. Nous ne serons plus ce truc bizarre qui déconne. Nous ne formerons jamais un grand ensemble. Nous ne serons jamais comme ceux qui au bout d'un moment se ressemblent.
Sec tout en bleu sur France Inter. Alors avant de retrouver Jean-Jacques Milteau, Marion Guilbeault décrypte une légende de la chanson française.
Côté club
sur France Inter.
De Bachung à Bachung, 1966-1975. C'est le titre de ce double album qui sort vendredi sur le label Panthéon et qui rassemble ses toutes premières chansons. Alors depuis sa mort en 2009, Sa veuve et héritière testamentaire, Chloé Mons, dresse un inventaire et mène une réédition de tout son catalogue. En 2018, il y a eu en amont un disque posthume composé de titres écrits par Dominica, Armand Méliès, Joseph Danvers, Dorian et bien d'autres, et recousu par Edith Fambuena. En 2023, on remonte à la genèse, aux années 60, quand l'interprète de La Nuit Je Mens se rêvait rocker américain, d'abord avec son groupe de copains, les Dunes, les Cancres, et en solo sur ce titre prophétique.
Votre dollar n'a plus cours, achetez nos porte-clés, en mode vous êtes à la bourre, chez nous c'est le style anglais. Je souris de vos fusées, il y a 5 siècles on lançait notre Jeanne d'Arc d'un bûcher, dommage qu'elle ait explosé. Pourquoi rêvez-vous des États-Unis? Chez nous, il y a tout, sauf en plus petit.
Pourquoi rêvez-vous des États-Unis? C'est le tout premier 45 tours de Bachung. On est en novembre 1966 sur le label Philips. C'est un titre arrangé par Gregory Schmidt, un titre qui sonne un peu comme du Antoine, mais qui fait un bide. Bachung a 19 ans. Il s'accroche, il rentre comme arrangeur chez RCA et il signe quelques musiques pour Claude Chan, Evelyne Courtois, Noël Deschamps. Il fait les premières parties des Pretty Things, des Trogs, The Cream et il chante toujours comme un ténor égaré dans la pop de l'époque. Il faut attendre 1968, la rencontre avec un autre arrangeur, un certain Jean-Claude Vanier, pour que les choses frémissent avec cette chanson.
Ils viennent de loin, par les chemins de l'enfance. Ils ont dans leurs mains l'avenir qui danse. Des rêves qui ricochent et qui s'envolent.
On dirait du Christian Delagrange, c'est
un
dingue.
Un petit peu, ouais, ou du Roy Orbison, version française. Les romantiques avec des paroles signées Pierre Delanoë. C'est un titre qui connaît un petit succès d'estime. Bachung vit alors chez son copain, le chanteur Christophe. Il enregistrera une poignée de chansons avec Jean-Claude Vanier avant que celui-ci ne file réhabiller Paul Naref, Hallyday, Barbara et bien sûr Gainsbourg. À l'aube des 70s, donc, Bachung continue de chercher sa voix dans tous les sens du terme, avec même quelques coquetteries en italien.
Una parola sola può far tornare la vita quando si è pianto l'ultima lacrima per lei nella mia stanza piena soltanto delusioni. Sogni vedrò sempre te quando l'alba verrà ti avrò.
Una parola sola, moi j'adore personnellement ce titre. En 1973, Bachung incarne Robespierre dans la comédie musicale La Révolution française de Claude-Michel Schoenberg, mais surtout il fait une nouvelle rencontre qui va compter, c'est celle de Dick Rivers. Entre 72 et 74, il compose une partie des musiques et co-réalise 3 albums, 3 singles pour le rocker niçois. Des sessions de studio qu'il qualifiait de compliquées. Il apprend le métier sur le tas avec des musiciens classiques qui font exprès de se désaccorder pour faire durer les séances un peu plus longtemps. Voilà, c'est une collaboration qui va lui permettre quand même de traverser le Channel, de travailler dans les studios olympiques à Londres. Il va y croiser les Stones. Il comprend immédiatement la différence de niveau, la différence de jeu, d'attitude entre rocker français et rocker anglo-saxon. Quelque chose qui va le marquer pour tout le reste de sa carrière. Cette amitié avec Dick Rivers, ça va les entraîner à former un groupe éphémère, le Rock Band Revival, qui le temps d'un album Rock'n'Roll Story, revisitera les standards américains comme sur ce...
Oh,
sur ce Lucille de Little Richard, Bashung donc en duo avec Dick Rivers, on est en 73. Dans les années 70, Bashung virera le C de son nom, disparaîtra derrière quelques pseudos comme David Bergen et Hendrik Darmen, des incarnations romantiques peu crédibles. Il participera au groupe Monkey Business entre 76 et 77 avec l'impression quand même de piétiner dans l'antichambre du succès. Aucune des 48 chansons réunies sur ce double album ne laisse présager le chanteur, l'interprète, le musicien de génie qui va devenir par la suite. Alors ces chansons, fallait-il les publier ? Aurait-il approuvé ? Éclairent-elles vraiment la suite de son œuvre ? Elles ont le mérite en tout cas de montrer, pas toujours sous son meilleur jour, un chanteur qui se cherche. Et elles mettent surtout en évidence son opiniâtreté. C'était la musique ou rien. Moi, j'ai quand même craqué sur une chanson écrite en 70 par celui qui devait devenir son alter ego des années 80, le parolier Boris Bergman.
Je n'ai qu'un peu de paille aux cheveux. Et c'est trop peu pour aimer à deux. Je n'ai rien d'autre que les deux poches vides, juste un peu une vieille Bible, mais sans que ça me coûte, j'ai des chants qui envoûtent, j'ai aussi la route, mais
paille aux cheveux avec des arrangements très Burt Bacharach. Il faudra attendre 1977, la déflagration punk, son deuxième album studio Roman Photo et surtout la collaboration décisive et foisonnante avec Boris Bergman et Daniel Tardieu pour que Bashung devienne Bashung. Avec ce titre qui finalement boucle la boucle avec un Daniel Balavoine encore inconnu au cœur et un certain Jean-Jacques Milteau à l'harmonica.
Lorsque j'ai quitté Moscou, mon bout de ferme, dans un comté proche de Clermont-Ferrand, le shérif venait de faire construire la sienne pour y loger l'adjoint et sa maman. Sing along, Bob. Sing along to my man. J'suis cowboy à Paname, mais c'est la faute à Dylan.
La faute à Dylan, donc extrait de Roman Photo en 77. Vous vous souvenez de cette session, Jean-Jacques Milteau, avec
Oui, pas clairement, mais je me rappelle de Daniel Balavoine dans les chœurs. Je me rappelle de Bashung avec ça, avec cette voix.
Ouais.
Après, j'étais un peu étonné quand j'ai entendu la suite.
Les autres
parce
chansons.
Il a vraiment changé de voix, mais en fait, dans toutes les chansons que vous nous avez fait écouter, oui, il y a une voix différente.
Exactement. Ouais. Ouais, il module beaucoup.
Un peu caméléon.
Un commentaire, Baptiste Trottignon, sur ce qu'on vient d'entendre, sur ces chansons, ces 48 chansons exhumées.
De façon générale, c'est ce que vous évoquiez à la fin, quoi. C'est toujours intéressant, je trouve. Après, oui, est-ce qu'il aurait aimé, lui, de son vivant, qu'on ressorte ça?
Non, je crois pas.
On saura jamais. Mais d'un point de vue musicologique, c'est de façon générale, et je parle pas que pour Bashung, mais c'est pas inintéressant, effectivement, parfois, de voir les early périodes, quoi. De voir comment ça sonne, dans des périodes où on sent que l'artiste se cherche encore un peu. C'est peut-être pas parfait, etc., mais je trouve ça pas inintéressant. Après, par contre, ce qui, dans le domaine du jazz, ça se fait beaucoup. Ce qui est plus emmerdant, je trouve, c'est quand on ressort des vieux disques avec 250 alternate takes. Oui. Parce que là, je trouve que c'est vraiment ne pas respecter l'artiste défunt. Si l'artiste n'a pas voulu sortir les alternate takes, les prises 2, 3, 4 qui n'ont pas été gardées pour l'album, bah, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il n'avait pas envie que ça. Voilà, ça c'est vraiment un manque de respect, je trouve. Après, quand c'est des chansons abouties comme ça, bon, évidemment, elles sont ce qu'elles sont, mais.
Elles sont toutes sorties en 45 tours.
Ça peut faire sens, je trouve. Enfin, voilà, c'est intéressant, je trouve.
Claire Milto, vous êtes d'accord ?
Oui, je suis assez d'accord. Je pense qu'effectivement, le processus de création, en général, c'est quelque chose de très curieux, le fait d'aller chercher comment ça se passe chez l'un ou chez l'autre, parce que ça se passe jamais de la même manière. C'est assez étonnant, enfin, suffisamment prenant.
De Bachung à Bachung, 48 chansons inédites, donc, réunies sur un double album. Ça sort vendredi sur le label Panthéon.
Côté.
Il y a même de la musique.
Club.
Vas-y, qu'est-ce que t'attends ? Va danser.
Laurent Goumard.
Baptiste Trottignon, Jean-Jacques Milteau sont nos invités côté club ce soir. Chacun son instrument, le piano pour le premier, l'harmonica pour le second. Jean-Jacques Milteau, nous sommes à quelques jours de ce concert à Méreuil, c'est-à-dire c'est demain, au Blues Roots Festival, un concert d'ouverture articulé sur deux de vos albums. Soul Conversation, 2008, Consideration, 2011. Alors pour comprendre ce rapprochement, titre d'ouverture de Soul Conversation. Et maintenant, titre de clôture de Consideration.
Got to keep believing there will be healing. Don't feel like it now, only out for themselves, watching the world burn round.
Quel est le lien qui existe, Jean-Jacques Milteau, entre ces deux albums espacés de 3 ans pour que vous les repreniez, que vous les retravailliez pour le concert de demain?
Ben en fait, l'important pour moi sur ces albums, c'est la présence des deux chanteurs afro-américains, Ron Smith et Michael Robinson. Parce que finalement, je me suis rendu compte que ce que j'aimais dans le blues, c'était la voix. Enfin, dans le blues, dans la musique américaine en général. Le gospel, ça, je suis un mécréant qui pleure en écoutant de la musique religieuse. et donc, dans ce genre de voix, là, on entendait Ron Smith dans cette chanson, mais il y a un autre chanteur avec lui qui s'appelle Michael Robinson, qui a une voix particulièrement céleste, et qui est fils de pasteur, d'ailleurs. Et l'harmonica que j'ai aimé au début, qui m'a donné envie de jouer, c'était celui de Sonny Boy Williamson, par exemple. C'est une sorte d'interlocuteur du chanteur. L'instrument n'est pas forcément devant, ça reste un épice. Enfin, une épice, pardon.
En quoi il est un interlocuteur, ben, l'instrument du chanteur?
On a l'impression qu'il est... C'est comme le chien de berger, il le pousse un peu. Hein. Et quand la voix dit une phrase, l'harmonica lui répond, c'est typique du blues, hein, call and response, ça devient des chants de travail, enfin, soi-disant. Il y a quelqu'un qui lance un cri et les autres lui répondent.
Un preach aussi, quoi.
Voilà, ouais. Il y a le prêche... Il y a quelque chose de magique dans la musique, cette musique afro-américaine qui est pour moi quelque chose d'extraordinaire. C'est un cadeau à l'humanité.
Pour ce concert, comment vous allez tricoter les deux albums? Vous y avez pensé?
Oui, j'y ai pensé, oui.
Bah, j'imagine, parce que c'est demain, donc vous avez intérêt.
Vous faites bien de m'y faire penser. Bah, en fait, on a fait un petit raccord hier avec mes camarades.
Ouais.
Et j'aurais dit texto, en fait, cette liste, je suis très content de l'avoir faite. C'est-à-dire, il y a une liste de morceaux qui... On l'a joué plusieurs fois et... C'est important, une liste. C'est-à-dire qu'un concert, je ne sais pas si Baptiste sera d'accord, mais c'est un peu comme un film. C'est un montage.
Oui, c'est vrai.
Et il faut que l'émotion aille et vienne, quoi.
On dit souvent, faut qu'il y ait c'est important, le début, le premier morceau, le dernier morceau, un au milieu, le reste après, bon.
Jean-Jacques Milteau, sur scène, vous êtes où? Vous aimez être à quelle place? Avec l'harmonica.
Il y a une expression de la Nouvelle-Orléans qui parle de la rythmique, qui s'appelle second line. Et j'aime bien la second line. C'est-à-dire être juste derrière le chanteur. suffisamment pour l'épauler, et éventuellement prendre sa place de temps à autre. Mais j'aime pas tellement la première place.
On vous a repéré dans les années 70 comme instrumentiste, hein, auprès d'Yves Montand, Eddie Mitchell, Jean-Jacques Goldman, Renaud, Barbara. Quel est celui ou celle qui vous a surpris dans ce qu'il a pu vous demander au niveau de votre instrument ?
Barbara, sûrement, parce que j'ai demandé si elle s'était pas trompée de numéro de téléphone. On n'avait rien à voir dans l'univers. Et ça s'est finalement très bien passé, mais en fait, je pense qu'elle avait rassemblé un certain nombre de musiciens qui avaient accroché son oreille. Il y avait Didier Lockwood, c'était elle qui faisait la direction artistique en plus. C'est son dernier album. Et je suis très content de l'avoir rencontré, mais je suis pas très content de ce que j'ai fait.
C'est vrai ? Pour quelle raison ?
Je n'ai jamais réussi à m'intégrer vraiment à cet univers, mais c'était une femme exceptionnelle.
On va écouter Is This The Way sur l'album Soul Conversation de 2008 avec Ron Smith au chant. Un mot peut-être sur cette composition ?
C'est la chose la plus simple du monde. C'est ce qui m'étonne, moi, toujours dans la musique. C'est quand ça paraît simple et que c'est bien. Ça, on a essayé de faire la même chose, mais je suis pas sûr d'avoir réussi. Mais la simplicité, c'est toujours sympa.
Is this the way? Numb inside a world insane. Roadside bombs and suicides. Chanting God is on your side. A mother's plea, a baby's cry. Another child destined to die. Without hope ever to see. Sunrise peacefully. What is the price to be? To watch a sunrise peacefully. To walk in friendship hand in hand. Love and respect your fellow man. Oh. Right this wrong that we breathe. Roadmap to humanity. Stop this senseless fuss and fight. In God's name, don't make it right. Hey.
name don't make it right. It's so simple, why can't it be? Sunrise peacefully. Sunrise peacefully. Sunrise peacefully. Sunrise peacefully.
Sur ce morceau de 2008, Jean-Jacques Milteau, vous jouez de quelle harmonica? Parce que j'imagine qu'il y a des différences, comme pour les pianos, comme pour les guitares et autres, pour produire certains sons, certains effets.
En fait, je joue depuis longtemps sur des harmonicas allemands, Hohner, on peut dire la marque, parce que c'est une institution, en fait. Et il y a des harmonicas chinois aussi, mais l'harmonica que j'utilise s'appelle le Marine Band, c'est-à-dire c'est le nom de l'orchestre de John Philip Sousa. C'est au début du XXe siècle. Et Hohner avait donné ce nom pour essayer d'exporter aux États-Unis et ils ont bien réussi. Et c'est un harmonica diatonique qui est accordé sur un système spécial qui fait qu'il y a un accord aspiré dans les graves et on joue beaucoup sur cet accord. C'est-à-dire en fait on joue à l'envers, on joue sur un harmonica en do, on joue en sol.
Est-ce que vous n'avez jamais été tenté ou est-ce qu'on a fait appel à vous pour faire évoluer un instrument, par exemple, ou même pour concocter un nouvel harmonica qui serait véritablement le vôtre, Jean-Jacques Milteau?
Il y a un modèle qui s'appelle Jean-Jacques Milteau chez Hohner.
Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il y a de particulier?
Parce que ça les intéressait d'avoir un nom d'instrumentiste, je pense. En fait, j'ai jamais eu l'occasion de vraiment collaborer techniquement, technologiquement avec eux.
Vous auriez aimé?
Oui, j'aurais bien aimé qu'ils demandent l'avis des harmonicistes avant de fabriquer des nouveaux modèles.
Et sur quoi vous seriez plus particulièrement intervenu sur la conception d'un harmonica?
Ben, il y a beaucoup de choses. En fait, c'est simple, un harmonica. C'est un peigne en bois dans lequel il y a un certain nombre de trous, 10 en ce qui concerne le Marine Band. Et puis, c'est deux plaques métalliques de laiton sur lesquelles il y a des lamelles qui vibrent. Et en fait, c'est le passage de la lamelle à chaque fois dans ce qu'ils appellent la lumière. C'est-à-dire à l'intérieur de la plaque sur laquelle elle est fixée, c'est ça qui fait la note, quoi. Il y a certainement beaucoup de choses à améliorer dans la taille des éléments, dans leur étanchéité.
Qu'est-ce que vous recherchez le plus, en fait, dans cet instrument?
C'est une bonne question. Ce qui m'a apporté, en fait, l'instrument maintenant, c'est un vieux compagnon. Et en fait, si je suis là ce soir avec vous, c'est parce que j'ai acheté un harmonica quand j'avais 15 ans. Tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est parce que j'avais acheté un harmonica.
Une question aussi à l'activiste de l'harmonica que vous êtes, puisque je sais que vous avez signé des méthodes d'apprentissage. Il n'y en avait pas avant vous?
Si, certainement, mais pas en français.
Donc vous avez appris simplement en écoutant les autres? En les regardant?
Oui. En tâtonnant. À l'époque, sur les tourne-disques, on pouvait écouter les 33 tours en 16 tours. Donc on pouvait décortiquer les phrases rapides éventuellement.
Et comment fallait-il évoluer le répertoire de l'harmonica qu'on imagine plutôt restreint, d'après vous, Jacques
Milteau? En ce qui me concerne, je ne suis pas très préoccupé par le répertoire de l'harmonica. Ce qui m'intéresse, c'est ce que l'harmonica peut organiser autour de lui. C'est-à-dire, ce qu'on a entendu, il y a assez peu d'harmonica, finalement. Et ça me plaît. C'est-à-dire le fait de pouvoir rassembler des gens que j'apprécie, que j'aime, et de choisir un répertoire, et de faire des listes, et de faire des concerts. C'est ça que j'apprécie dans l'instrument, en fait, peut-être plus que l'instrument lui-même.
Jacques Milteau, on va se quitter avec votre choix playlist sur France Inter. Vous avez choisi Bertrand Belin, Tambour. Pour quelle raison?
Mais pour la raison que je vous disais tout à l'heure, les choses simples, ça paraît simple, c'est toujours plus compliqué. Et j'ai trouvé que c'était une façon originale de traiter une chanson.
Tambour. Tambour, es-tu le bon tambour? Tambour, 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 es-tu le bon tambour? À qui sont ces squelettes? Tu veux ma haine ou tu veux mon amour?
tambour. Tu joues ma musique.
Tambour, harmonica, piano, c'était le trio gagnant ce soir dans Côté Club. Jean-Jacques Milteau, merci à vous.
Merci.
Je rappelle les deux albums Soul Conversation et Consideration pour votre concert demain au Blues Roots Festival de Méreuil. On vous retrouve aussi le 7 novembre au Luxembourg, le 9 à Pontchâteau, le 11 Fontenay-le-Comte, le 14 au Théâtre du Vésinet et le 17 au Staccato de Miramont. Baptiste Trottignon, merci à vous.
Merci.
L'album, c'est Brexit Music. Vous serez sur scène le 5 octobre à Saint-Quentin-en-Yvelines, le 10 et le 11 à Paris au Bal Blomé, le 14 au Cayenne Jazz de Guyane. Plein d'autres dates. Allez, encore deux. Le 19 et 20 décembre, en duo avec Arthur Teboul, à la scène musicale de Boulogne-Billancourt. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain... Programme cinéma Gaumont Marguerite pour Chassol qui sera notre invité avec à ses côtés Aquin. Et pour vous Marion ?
Une surprise Laurent.
J'imagine. Merci à toute l'équipe du soir, Stéphane Le Guenec à la réalisation, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic à la programmation, aux playlists Valentine Chedebois et Jean-Jacques Milteau ce soir, et bien sûr à la technique, Alexandre Chénier, Alix Barrois. C'était Côté Club, du souffle Jean-Jacques Milteau, du doigté Baptiste Trottignon. Bonne fin de soirée.
Côté, c'était vraiment des chouettes moments, quoi.
Oui, il y avait même de la musique.
Et la musique, elle est jamais triste.
Bye. Bye.